plus cette année, c'est Wiz.
Je suppose que ça va embêter beaucoup de gens.
Monsieur le Président, il compte bien.
J'arrive à croire qu'elle me comprend quelquefois. Et je me comprends pas moi-même.
Du rap.
Bon, 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 bon.
Toutes les musiques des tropiques. Une heure de musique atmosphérique.
Sur le 88.3.
L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
À la sortie d'un concert de Kraftwerk, certains se demandent est-ce qu'ils ont vraiment joué de la musique ou est-ce qu'ils jouent à Tetris en attendant qu'une bande-son se déroule. Quand les musiciens de musique électronique passent pour des boîtes noires, tous les faits et gestes des musiciens pourraient passer pour un seul tour de passe-passe, voire une franche supercherie. Au lieu d'une défiance à l'égard de l'ensemble des musiciens électroniques, au-delà même de la peur qu'ils nous dupent, il y a une question toute scientifique pour au moins dire qu'elle gagnera à ce qu'on l'aborde sans préjuger coupable qui que ce soit, est-ce qu'appuyer sur un bouton, c'est déjà jouer de la musique? De fait, il ne se passe pas exactement la même chose quand on joue du violoncelle et quand on joue de la musique à partir d'un laptop. Dès l'ouverture, le désir n'est pas exactement du même ordre quand on ouvre une boîte de violoncelle et quand on ouvre un logiciel. À l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif « La musique et la machine » aux presses universitaires de Rennes, nous recevons trois de ses contributeurs rassemblés à la cassette, Pierre Coupry et Baptiste Bacot, et avec un léger différé, le musicologue Emmanuel Parent. Un extrait de Piercing Music du compositeur Robert Henke. Bonjour Baptiste Bacot.
Bonjour David.
C'est extrait d'un projet Monolake qui est devenu, dit-on, l'une des icônes clés de la culture électronique des clubs émergents à Berlin à la fin des années 80. C'est voilà, un ensemble de sons, d'abord une installation multicanale qu'il réagence avec des logiciels qui évoluent dans le temps. Et Robert Henke aussi, l'un des créateur d'un logiciel très massif dans le champ qui est Live, développé par Ableton. Qu'est-ce qu'on doit entendre quand on écoute ça, alors des mouvements complètement stochastiques ou une forme musicale quand même?
Je pense qu'il y a clairement une forme musicale, il y a une volonté de rassembler des ambiances sonores manifestement, donc je découvre l'extrait, mais qui a priori n'ont rien à faire les uns avec les autres, les bruits de la nature et puis la synthèse qu'on entendait dès le début par petits à-coups comme ça.
Alors Baptiste Bacot, vous avez traduit le texte qui ouvre ce volume « La musique et la machine » qui est un texte de Mark Butler où il y a une affirmation qui peut prêter à débat. Il dit « Plutôt que d'adopter une approche déterministe dans laquelle les propriétés techniques d'une interface sont perçues comme conduisant inévitablement aux résultats qu'elles permettent, il est préférable de conceptualiser les interfaces en termes d'affordance entre utilisateurs et objets, c'est-à-dire de se demander ce qu'elles permettent. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que le concept d'affordance peut nous sauver de ce qui serait sinon un déterminisme technologique?
Alors oui, plutôt.
Vous êtes convaincu par Mark Butler?
Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il écrit, oui, en règle générale. Là, dans ce cas précis de la mobilisation de ce concept donc d'affordance qui vient de la psychologie visuelle et des travaux de James Gibson.
C'est un concept des années 70 qui a surtout servi pour décrire des processus ergonomiques.
Absolument.
De rapport utilisateur-interface.
Tout à fait, tout à fait. Et la thèse centrale dans ce passage de Gibson, c'est et que s'approprie Mark Butler pour parler de la pratique de la musique électronique. C'est celle qui consiste à dire que la matière et les structures qui nous entourent, elles affordent certains types d'interactions, c'est-à-dire qu'elles les rendent possibles, et elles n'en affordent pas d'autres, c'est-à-dire qu'elles les excluent. Donc on peut marcher sur un sol dur, mais on va avoir plus de mal à nager. Donc l'idée, c'est plutôt de considérer les interfaces de la musique électronique effectivement comme des zones du possible que comme des caractéristiques techniques qui seraient rattachées immédiatement au résultat auquel on pourrait arriver en les manipulant. Voilà, donc c'est de réintroduire finalement le degré de liberté de l'artiste et de créativité qu'il y a dans des machines, même si leur programmation, elle est plutôt close.
Bonjour Pierre Coupry.
Bonjour.
Je vous vois opiner, vous êtes d'accord avec cette définition de l'affordance alors ?
Oui, bien sûr, même si, en fait, je crois, je vais un peu, peut-être aller un petit peu plus loin dans le sens où souvent les artistes, bien évidemment, utilisent les machines dans les fonctionnalités dans lesquelles elles ont été préparées. Mais une des caractéristiques de l'art, bien souvent, et en musique c'est vraiment le cas, c'est d'aller beaucoup plus loin et de détourner la machine par rapport à toutes les fonctions qui ont été prévues par le constructeur ou même des fonctions un peu extrêmes qui auraient été juste mis comme ça, mais sans imaginer qu'on puisse en faire de la musique. Et bien souvent dans l'histoire de la musique, et surtout la musique électronique, les artistes ont détourné les appareils et sont amusés à faire ça. Il y a ce jeu de détournement.
Oui, ça suppose d'avoir un rapport un peu actif avec les possibles de l'interface, au-delà de l'interface elle-même. Mais on a aussi utilisé le concept d'affordance pour faire justement certaines critiques de ce que les machines peuvent nous commander quand même. Je pense à Simone Morgagni qui a utilisé ce concept d'affordance pour décrire le ressenti émotionnel au contact du packaging d'Apple quand on achète un iPhone. C'est comme si, en effet, le packaging affordé aime moins. Moi, je suis là pour ton bien.
Oui, alors là, je pense qu'on passe dans un champ, alors que moi, je maîtrise beaucoup moins, qui est plutôt celui du marketing et des études, des business studies, ouais. Où je ne saurais pas trop comment les appeler, enfin de l'économie de la consommation. Et oui, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser ce concept pour l'appliquer à d'autres pans de l'existence et de la société dans laquelle on vit.
Et d'en faire peut-être des usages plus critiques aussi. Alors Butler va creuser un peu en disant que la mobilisation de ce concept par Donald Norman dans un livre qui semble-t-il a fait date sur la question qui s'appelle The Design of Everyday Things a été particulièrement décisive parce que là où Gibson donc conçoit l'affordance simplement selon les capacités de l'agent qui rentre en contact avec l'interface, Norman, lui, développe une dimension de contexte qui suggère d'envisager plus spécifiquement l'affordance à partir de ce qu'un agent perçoit.
Oui. Alors je crois que pour Norman, on est plutôt dans le design d'interaction, mais ça rejoint tout à fait les questions que soumet à l'examen Butler dans son livre et dans ce texte traduit, à savoir que effectivement, il y a aussi une importance vraiment notable du caractère visuel de l'interface, du code couleur qui vont signaler à l'utilisateur que l'action a bien été prise en compte, ou bien d'une dimension aussi de personnalisation. Si on parle du logiciel live à proprement parler, on peut choisir parmi, je ne sais plus, je crois que c'est au moins 64 couleurs différentes pour assigner une couleur donnée à un clip, c'est-à-dire un extrait audio ou MIDI dans le logiciel. Et ça permet d'organiser et d'avoir ce qu'on appelle le workflow, des zones dans laquelle le musicien se met au travail, ouais. Qui sont hautement personnalisables et qui permettent comme ça de naviguer pendant le set qui est souvent, et je pense qu'on y reviendra, en partie au moins improvisé.
Alors, il se trouve que c'est un logiciel très plébiscité qui permet plein de choses, mais qui, au premier abord, n'est pas des plus intuitifs. Et du reste, quand on dit d'un logiciel qu'il est intuitif, ça veut dire qu'on a envie de se laisser faire par lui, de justement obéir à un certain déterminisme technologique.
Je ne dirais pas que Ableton Live n'est pas intuitif, au contraire. C'est vraiment extrêmement intuitif parce qu'il a une très grande simplicité d'interface. On trouve immédiatement ses marques dessus, on trouve immédiatement les fonctions dessus. Et en même temps, comme vous le disiez, c'est un logiciel qui permet d'aller très très loin, qui est quand même extrêmement puissant, surtout depuis l'intégration de Nomax, qui permet donc de développer ses propres devices, ses propres plugins à l'intérieur. Et donc, on a vraiment des fonctionnalités très poussées en fait, dans le logiciel. Mais je pense que c'est un logiciel qui est quand même assez intuitif. Et pour l'utiliser en cours, les étudiants ne sont pas du tout perdus. Ça va très, très vite.
Ils se l'approprient et ils le détournent vite aussi.
Alors, ils le détournent non. C'est plus difficile. Je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de détournement, mais le détournement, comme vous disiez, ça nécessite de très bien connaître le logiciel. On ne détourne pas un logiciel qu'on découvre sur l'instant. Alors c'est sans le faire exprès.
Oui. Pour continuer l'idée de Donald Norman, on va revenir sur cette idée de dimension conceptuelle qui implique en effet aussi Mark Butler et ce que peut en dire Emmanuel Parent dans un entretien que j'ai pu avoir avec lui pour préparer cette émission, qui a donc co-dirigé l'ouvrage avec vous, Pierre Coupry, et avec Kevin Gaon. Et je lui ai demandé si un DJ qui fait de la musique fait donc d'abord l'exploration de ses plugins, de son sound system, peut-être plus encore ou avant, en tout cas, qu'il ne pense à produire une forme musicale. Voici sa réponse, introduite par quelques notes de Forward Motion du groupe de jazz avec électronique Trichotomy.
Je pense qu'un DJ a toujours en tête une suite de morceaux à passer. Mais ce que montre Mark Butler, c'est que dans l'urgence de l'instant, il y a une prise de décision qui est en interaction justement avec les différents filtres, les plugins que vous évoquez, et qui peut changer de trajectoire au fur et à mesure de son set, qui n'est donc pas la réactualisation d'une œuvre qui a été pensée en amont, mais qui peut s'adapter alors, à la fois effectivement à ses machines, mais évidemment bien sûr à l'auditoire pour justement saisir la vibe, le moment qui est justement ce sentiment de la performance qui est très présent dans les musiques électroniques populaires, alors qu'on pourrait imaginer, précisément parce qu'il s'agit de musique enregistrée, que les choses sont prédéterminées. Or, cette dimension improvisation est très présente dans le DJing, et Mark Butler d'ailleurs établit un parallèle a priori étonnant, mais qui ne l'est pas tant, avec le musicien de jazz.
Ah oui, comment ? C'est-à-dire ?
Eh bien, en fait, il compare les disques, les échantillons, qui sont dans des disques vinyles ou alors dans une machine quelconque pour le DJ, aux idées musicales travaillées en amont de la performance par le jazzman. En fait, dans les deux cas, il s'agit de remixer des idées préconçues dans le temps présent.
Ah oui, comme avec les patterns, ouais.
Exactement. Et c'est vrai que c'est assez intéressant puisque la musicologie du jazz a beaucoup travaillé. Paul Berliner, par exemple, a montré dans son livre Thinking in Jazz qu'il s'agit de réutiliser en temps réel des clichés, finalement. Toute pratique de l'oralité, de l'improvisation agit de la sorte. Et finalement, le DJ réactualise la chose, mais avec des échantillons préenregistrés.
Ah oui, donc ça veut dire que la machine n'est plus tant un outil, d'où l'intérêt du concept d'interaction. C'est-à-dire que ce qui se produit, c'est bien un processus qui se fait avec la machine, bien plus que par la machine. Alors.
Oui, c'est ça. Il y a évidemment un jeu dans les deux sens. Hein. Le concept d'affordance mobilisé par Butler et par d'autres dans l'ouvrage joue de cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme machinique, mais en même temps, la machine n'est pas passive. Elle est active dans la relation.
Mais alors, cette notion d'affordance, elle laisse presque penser que le musicien, s'il est en position d'utilisateur de la machine, n'a plus rien d'autre à faire que de suivre les instructions ou de déplier un programme qui serait celui de la machine.
Précisément, je pense que la notion d'affordance, si elle a eu ce succès, en tout cas telle qu'elle est utilisée par Baptiste Paco ou Marc Butler dans cet ouvrage, c'est qu'elle reste ouverte, elle permet de dépasser cette notion de déterminisme. Et dans le domaine des musiques populaires, spécifiquement, il y a la question du contournement des contraintes. Alors les contraintes peuvent être multiples dans le domaine des musiques populaires, elles peuvent être sociales, elles peuvent être contextuelles, et elles peuvent être machiniques. Par exemple, au début de la techno, avec les machines, les boîtes à rythme, comme la TR-808, qui n'étaient pas prévues véritablement pour être utilisées de la sorte, eh bien, elles l'ont été, et c'est le concept d'affordance qui en rend compte.
Est-ce que ça veut dire que ce travail musicologique que vous faites aux côtés de Pierre Coupry, de Kevin Gohan, il consiste à rattraper une espèce de retard théorique qu'on avait sur les pratiques, à savoir que les pratiques étaient sont très avancées quant à l'interaction entre musiciens et machines?
Oui, bien sûr. Alors, un retard théorique, la théorie arrive toujours après la pratique, enfin, par définition, dans le domaine des musiques populaires, où elle ne préexiste pas à la création. En même temps, ça ne fait pas non plus si longtemps à l'échelle de l'histoire que les DJ de Détroit ont travaillé. On est dans les années 80-90. Il a fallu le temps, effectivement, que des chercheurs prennent le temps d'observer, à la fois dans le studio, le bedroom producer, ou alors en live, pour vraiment refaire le chemin avec les outils théoriques qui a été parcouru par les praticiens.
Vous mobilisez le livre Musiqué de Christopher Small qui lui explique bien que faire de la musique pour le coup c'est déjà une question d'interaction dès le départ, sauf que la machine vient encore reporter le curseur un cran plus loin, j'ai l'impression.
Oui, alors on pourrait penser que c'est paradoxal puisque Christopher Small a un a priori anti-machinique assez prononcé. Il y a une passion de la musique live,
du geste instrumental,
de l'ici et maintenant, à l'opposé de la réification qui serait apportée par le domaine machinique. En fait, musiquer, c'est une observation de l'interaction entre tous les acteurs, humains, non humains, mais aussi les lieux. Finalement, interagir, c'est quoi? C'est interagir avec des machines, interagir avec des hommes, ce que la musique a toujours fait en tant qu'acte collectif, et interagir avec des lieux dans leur dimension acoustique. Et ça, c'est très important, et je pense que c'est quelque chose aussi qui a été particulièrement exploré dans le domaine des musiques expérimentales, avec Alvin Lussier, par exemple, au cœur de la contribution de Kevin Gohan.
D'une musique pour piano et vaisseau sonore amplifié, pour le traduire littéralement en français, de Alvin Lussier, qui écrivait en 1979 « Si on accepte ces phénomènes de propagation comme des occurrences naturelles que l'on peut apprécier, mettre à profit, ils ouvrent un territoire nouveau à la composition musicale. » Ce qui poursuit un peu ce que disait Emmanuel Parent, à savoir que quand le sous-titre du livre est « Penser l'interaction dans les musiques électroniques », c'est pas seulement les interactions entre le musicien utilisateur et l'interface, c'est aussi ses interactions avec l'environnement sonore. Mathilde Bacot.
Oui. Je crois que Emmanuel l'a tout à fait bien dit dans l'extrait que vous venez de passer. Faire une petite mise au point sur une confusion qui est faite souvent sur le DJing, qui consiste à passer deux au moins morceaux préexistants et à les mixer entre eux de façon continue de sorte que le public n'arrête jamais de danser en faisant des transitions les plus fines possibles et les plus imperceptibles ou bien des transitions qui sont brutales mais assumées et le travail qui est celui du performeur avec un laptop. Donc là on est dans le cas où c'est quelqu'un qui typiquement va utiliser Ableton Live et la façon dont le programme est conçu pour agencer entre eux une multitude d'échantillons qui peuvent être traités par des effets, qui peuvent être importés de sources audio préexistantes, etc., qui peuvent être générés dans l'application avec des instruments virtuels. et ce travail de l'improvisation. Alors certes, il existe parce que le DJ doit être réactif pour que l'engagement des danseurs continue à être satisfaisant, c'est-à-dire que si après un morceau la piste se vide et que ça continue, là il y a un échec qui est mesuré à la réaction de l'audience, du public, et donc il faut faire autre chose, il faut revenir ou il faut trouver pour ne pas commettre l'erreur la prochaine fois ce qui a pu faire que le public a réagi comme ça. Donc ça peut être dans la transition, ça peut être contextuel. Dans le cas du performeur avec laptop, les morceaux, les parties de la musique sont mixées un peu à la manière d'un DJ, mais elles sont beaucoup plus malléables dans le sens où elles sont divisées en unités qui sont beaucoup plus petites. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté seulement les percussions, les synthétiseurs, les pistes de voix, etc. Et donc on peut mélanger à des niveaux plus importants que si on a juste deux enregistrements stéréo et un crossfader et deux faders de volume pour ajuster et faire les transitions. Voilà, donc
ce que vous dites, c'est que le musicien qui joue avec live est plus précis et un peu plus compositeur que le DJ ?
Alors oui, parce que le DJ peut être producteur, mais il peut être seulement DJ. Mmh. Alors que le laptop performer, on attend de lui qu'il soit l'auteur de la musique qu'il va performer avec son laptop, puisque c'est son laptop dans son logiciel, etc., et qu'il contrôle de façon globale à la fois l'environnement de production et l'environnement avec lequel il interagit pendant la performance.
Merci de cette précision, mais ça ne répond pas du tout à ma question.
Non, pouvez-vous la reposer, s'il vous plaît.
Que je vais donc reposer. Oui. Surtout qu'il y a un livre d'entretien avec Alvin Lucier qui vient d'être édité par les éditions MF avec Mathieu Saladin. Et donc, en effet, la question que nous pose Alvin Lucier, telle que nous la présente à l'instant Emmanuel Parent, c'est que la manipulation du son en direct dans la façon dont on peut retransmettre le son va nous sensibiliser avec l'environnement sonore et jouer et interagir avec l'environnement, voire avec les conditions acoustiques de production du son.
Oui, bien sûr. Je pense que dans l'environnement du club, c'est assez standardisé, mais il y a effectivement des démarches de musiciens qui ont recours à l'électronique, qui jouent avec ces choses-là et avec la dimension ancrée du lieu dans lequel le ou les sons sont émis. On peut penser bien évidemment à la spatialisation qui est pratiquée depuis longtemps au GRM, par exemple, et ailleurs à la suite de cela, mais aussi à des œuvres qui relèvent plus de ce qu'on appelle aujourd'hui le sound art, ou les arts sonores, pour le dire en français, et qui, là, elles aussi, vont se servir du son comme un médium pour attirer l'attention sur une composante ou une singularité du lieu dans lequel on se trouve.
C'est-à-dire, oui, que sculpter en direct la réflexion du son que l'on envoie devient un geste de composition.
Oui, si c'est pensé pour un lieu précis, il me semble qu'on peut le dire.
Ça va ensemble, le développement de l'électronique en musique, Pierre Coupry, et en effet la prise en compte de l'environnement sonore, parce qu'on a l'impression que c'est très conjoint.
Absolument. C'est vrai que, disons que, comme la vient de le dire Baptiste, en fait, il y a vraiment eu un mouvement pour prendre en compte en fait cet espace. Et cet espace qui n'est pas seulement un espace, un lieu. C'est vrai qu'il y a un lieu qui va être habité par un espace particulier, par une installation, par des orchestres de haut-parleurs, donc qui vont réagir d'une certaine manière. Certaines pratiques musicales l'intègrent dans la composition. On l'a vu avec un des premiers à faire ça, par exemple Xenakis dans Concret PH, où il va créer une partition d'espace pour le pavillon Philips, véritablement. Donc vraiment construire la spatialisation au moment de la composition.
Ça, c'est un peu avant l'électronique, ça, c'est dans les années 50.
Ouais. Oui. Et après, on va le retrouver dans les musiques électroniques. Les musiques électroniques, de plus en plus, maintenant, intègrent aussi une dimension spatiale. On a pu le voir, par exemple, à Radio France, il y a un certain nombre de concerts de musique électronique en 360, en audio 360.
À l'initiative du GRM,
voilà.
Oui.
Et donc il y a cet espace, en fait, qui est à la fois un espace qui peut être composé, mais aussi un espace qui peut être interprété. Dans le cas de la musique telle qu'on peut l'avoir au GRM ou sur ce qu'on appelle des acousmoniums, on va avoir véritablement une interprétation de l'espace, une interprétation des couleurs, des plans sonores, du lieu jouer avec un instrument, et l'instrument, en l'occurrence, c'est l'orchestre de haut-parleurs. C'est les 80, 100 haut-parleurs qu'il y a autour du public. Et ça va devenir un instrument sur lequel on va pouvoir interpréter véritablement la musique et donc composer en direct, en fait, cette interprétation.
Alors vous dites bien, ça va devenir un instrument, donc on maintient le mot instrument, même on maintient l'idée d'un geste instrumental dans telle configuration. Je vous propose d'entendre deux extraits, on va les commenter, d'une conférence TED de Robert Henke, traduit par Léonard Pauli.
J'utilise l'ordinateur comme une sorte d'intelligence qui puisse me surprendre. C'est la même chose qu'avec les synthèses complexes, celles des synthétiseurs modulaires par exemple. Vous modifiez des paramètres et soudain des choses arrivent que vous n'aviez pas prévues. Vous pouvez les expliquer bien sûr si vous connaissez le système mais vous ne les aviez pas prévues. Et ça crée une interaction intéressante, beaucoup plus intéressante que si vous jouez de la guitare par exemple, puisque vous pouvez très bien prévoir ce qui va se passer quand vous jouez de la guitare. C'est une manière unique de considérer l'électronique ainsi que les capacités des ordinateurs. Mais il y a autre chose qui m'amène à la question des instruments. Bon nombre d'instruments que nous utilisons, que nous apprécions, sont le résultat de très peu de personnes qui les ont construits. Et même, en fait, dans beaucoup de cas de l'histoire des instruments, ça vient d'une seule personne. Le Lindrum, par exemple, le PPGWay, deux instruments que j'aime beaucoup. Ils étaient étranges à l'époque où ils ont été créés, ils étaient fantastiques. Et on peut clairement y déceler une personnalité. Donc, quand vous en jouez, vous interagissez vraiment avec les idées d'une personne qui a créé cet instrument. Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas une feuille de papier blanc qui se comporte exactement selon une mathématique. Ces instruments ont des défauts, des irrégularités, mais ils occasionnent aussi des moments de grâce. Ils ont en fait toutes les qualités que l'on recherche chez un partenaire musical.
Pierre Coupry, il y a deux idées, notamment l'idée que l'interface est aussi une source d'exploration de ce qu'on peut faire et que ça donne des idées. Et d'autre part, l'idée aussi qu'en termes de lutherie, là, on a un nombre d'exemplaires illimité en quelque sorte et que par conséquent, on n'est plus enfermé dans ce que le luthier avait potentiellement comme idée pour son instrument.
Oui, et de plus en plus, hein, depuis maintenant 20 ans à peu près, il y a un développement extrêmement important des lutheries numériques. Et avec une multiplication absolument très impressionnante, en fait, des possibilités. Le fait que, enfin, ce qui explique Robert Henke juste au tout début, vient d'un principe, en fait, finalement assez simple. Ce qui a été expliqué dans l'ouvrage par Claude Cadoz, en fait, qui est cité dans l'ouvrage, c'est cette fameuse coupure, en fait, entre le geste du musicien et la production sonore, qui est une des caractéristiques de la lutherie électronique. Entre les deux, il y a une sorte de ce qu'on appelle un mapping, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va relier ce qu'on va pouvoir enregistrer du geste à un synthétiseur, par exemple, ou un effet de transformation du son. Mais ce mapping peut être extrêmement complexe, ce qui fait que l'instrument peut avoir une réponse qui est absolument pas linéaire par rapport au geste. Et on peut être extrêmement surpris, ce qu'expliquait Robert Henke au début, on va être très surpris par les réactions en fait, de la machine, les réactions sonores, justement causées par ce mapping qui peut parfois être très complexe.
Et alors quand on a cet étonnement, est-ce que ce sont des surprises qui renouvellent même l'idée de la forme musicale que l'on peut être en train de produire au point de reconfigurer ce qu'on est en train de faire ?
Il n'y a pas de raison de penser le contraire, oui, non ? Je pense que oui, souvent c'est même des situations qui sont recherchées par les musiciens et je pense que ouais. Henke en particulier avec sa Lindrum et son PPG Wave, il cherche à créer ces situations dans lesquelles le contrôle de la machine va en quelque sorte lui échapper pour produire des sons auxquels il ne s'attendait pas et justement creuser, voir ce qu'il est possible d'en faire, aller dans une nouvelle direction à partir de là, etc. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est même recherché par les musiciens. Oui.
Mais quand Robert Henke dit que c'est pas possible avec une guitare, c'est pas complètement vrai, parce que avec une guitare, quand elle fait un son bizarre avec telle corde, ça peut changer le projet de ce qu'on va faire avec.
Oui, mais disons qu'une des caractéristiques souvent avec un instrument électronique, c'est que il y a peut-être une partie qui nous échappe, qui peut échapper aux musiciens. De par la complexité en fait, de l'instrument, de par la complexité de sa programmation, en fait, Tandis qu'une guitare, en fait, le musicien est censé complètement maîtriser son instrument. Et même s'il s'agit d'une guitare électrique, enfin, l'instrumentiste va quand même avoir une très grande maîtrise. Une très grande maîtrise. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas de musiciens électroniques. Et comme le dit Baptiste, le musicien électronique peut se mettre aussi dans une situation de pas vouloir maîtriser complètement son instrument pour être surpris, pour être...
Mais là, on a l'impression que c'est une façon de retourner le procès en déterminisme technologique en disant non, au contraire, il y a même incitation à l'indétermination. je vais faire encore plus ce que je ne croyais pas possible pour pouvoir montrer à quel point je n'obéis pas à ce qui serait les possibles de la machine.
Oui.
Moi, je pense que c'est pas si différent. Les instruments acoustiques et les instruments électroniques sont pas si différents. On peut faire des choses très convenues à la guitare et puis on peut faire des choses beaucoup moins convenues, beaucoup plus bruitistes, qui seront plus dans l'expérimentation sur le son lui-même plutôt que sur les notes. Et c'est un peu pareil avec les machines. On peut bien sûr lancer les séquences qui sont enregistrées, jouer sur les presets, et on peut aussi essayer de s'approprier plus en profondeur la boîte ou le logiciel qu'on a devant nous, et puis en faire quelque chose, en faire une musique, et puis même arriver à une forme d'idiosyncrasie avec des logiciels et des instruments électroniques finalement.
Voilà comment Robert Henkes se débrouille de cette question de déterminisme technologique dans cette conférence TED.
On a besoin d'expérimenter pour comprendre ce que nous voulons. Parce qu'une installation électronique, c'est comme une feuille de papier vierge. Il n'y a pas une règle stricte qui vous dise comment en faire une composition achevée. À chaque fois qu'on allume l'ordinateur, on repart de zéro, on a la possibilité d'essayer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait auparavant. Et c'est difficile, parce que déjà il faut avoir une idée, et puis ensuite, il faut accepter le fait qu'en essayant quelque chose de nouveau, justement, eh bien ça ne marchera pas. C'est donc un défi. C'est bien plus simple d'écrire la même batterie, les mêmes accords en boucle, encore et toujours, parce que vous savez que ça marche, mais peut-être que ce ne sera pas si satisfaisant sur le long terme. Il y a donc toujours cette tension entre faire ce que vous savez faire, vous améliorer dans ce que vous savez faire, et puis tenter de faire un pas en avant, essayer autre chose.
Est-ce que c'est un peu ça que vous appelez l'évolution dynamique, Pierre Coupry, en citant Simondon? Ça, c'est une référence qui vous est commune d'ailleurs à tous les deux, la référence à Gilbert Simondon. C'est l'idée que la structure de l'interface à laquelle on s'affaire distribue le processus créatif comme quelque chose de dynamique, qui doit changer un peu ses finalités en cours de route.
Oui, il y a cette idée. Et alors, par rapport à ce que vient de dire Henkes, c'est assez amusant d'écouter. Je découvre l'enregistrement comme ça. Et quand on connaît le logiciel Ableton Live, on sait qu'une des très très grandes forces, c'est justement d'utiliser des templates. Et les musiciens ont des templates qui sont préparés avec des couleurs, avec des pistes toutes prêtes, avec des boucles de batterie bien réglées.
Il y a là un plaisir à se laisser faire par le logiciel. Donc.
Voilà. Et le musicien part rarement d'une page blanche en réalité, en fait.
Sinon, il utilise Pure Data.
Voilà. Sinon, il utilise Pure Data ou Max, en effet. Après, il y a aussi cette idée que, en effet, les choses vont évoluer progressivement et qu'il y a un aspect dynamique, en fait, dans cette... Je me rappelle plus si c'est vraiment ça que voulait dire Simondon. J'avoue que j'ai plus le...
Il parle de transduction. C'est quoi la transduction?
Alors, ça c'est chez moi, je pense. Ou peut-être que...
Non, c'est chez Pierre Coupé aussi. Mais
chez Pierre Coupé, Baptiste. Moi, je peux répondre. La transduction, c'est... Ce que Simondon appelle transduction, c'est quand il y a transfert d'énergie entre deux milieux qui sont différents, mais sans que l'information ne perde de sa valeur ou de sa complexité. Moi, ce terme de transduction m'a paru être tout à fait intéressant pour expliquer justement ce qui se passe, Pierre le disait tout à l'heure, quand il y a rupture causale, comme l'explique très bien Kados, dans la pratique des instruments électroniques.
C'est quoi la rupture causale?
La rupture causale, c'est que quand on gratte une corde qui est tendue, la réaction de la corde et le son qui est émis par cette corde est proportionnelle à la façon dont on l'a attaquée, le matériau qu'on a utilisé pour la mettre en vibration, l'énergie qu'on y a mis. Et quand on appuie sur une touche de sampler, le côté dynamique est complètement écrasé par le volume de la sono qui transmet cela. Le geste ne sera pas forcément... Enfin, là, si on fait un geste de percussion sur un sampleur à pad, imaginons, ou sur une touche de piano qu'on enfonce qui est reliée à un sampleur, le geste ne sera plus du tout en lien avec le son qui sera émis. Il peut continuer à l'être, mais souvent il ne le sera pas. Et donc, il y a bien quelque chose qui se fissure dans le schéma mécanique de l'instrument acoustique. Et donc, il n'y a plus de proportionnalité entre le geste et le son qui est produit.
Mais parce que ça, c'est une des critiques qu'on fait beaucoup, justement, aux synthétiseurs, par exemple, ou aux instruments électroniques, c'est que quand on appuie sur un bouton, il n'y a que deux scénarios possibles, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Alors que quand on appuie sur la touche d'un piano, il peut se passer vraiment beaucoup de choses différentes selon la manière dont on appuie.
Mais je pense que ça peut marcher ou pas aussi avec le piano. Enfin, je ne crois pas que ce soit, encore une fois...
Comme vous disiez, il y a quand même un écrasement de la dynamique.
Il y a un écrasement de la dynamique, mais c'est compensé par une liberté qui est élargie, notamment sur la question des timbres.
Pierre Coupry, vous, ce que vous dites, c'est qu'avant de conditionner nos gestes, les machines nous invitent à les questionner.
Oui. Disons que l'article que j'ai publié dans l'ouvrage... c'est un peu un début d'une réflexion dans l'idée que la machine n'est pas extérieure au musicien, n'est pas extérieure à la musique qu'il produit. Il faut bien comprendre que la musique est forcément technologique de toute façon. Quelle qu'elle soit, il y a toujours une part de technologie dans la musique. Et bien souvent, quand on parle des musiques électroniques ou des musiques électroacoustiques ou d'informatique musicale, on sépare souvent le musical de la technologie. Alors que, il y a une intrication qui est bien plus forte entre les deux, et la production musicale est interdépendante de la production technologique, fonctionne avec la production technologique. Et c'est une chose qu'on a en commun, je pense, avec Baptiste, c'est que lorsqu'on analyse une musique électronique, on ne va pas seulement analyser que la musique ou que le résultat sonore, on va aussi analyser l'interface, la manière dont fonctionne le logiciel. Baptiste analyse les mouvements qui sont faits sur la table de mixage, même l'usure qui est faite par les musiciens sur certains potentiomètres, par exemple, pour comprendre en fait comment de ces gestes qui sont liés à l'instrument, comment la musique naît en fait de la technologie. Véritablement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une séparation entre ces éléments. Alors que bien souvent, en musicologie, on dit... d'un côté, il y a la musique, de l'autre côté, il y a la technologie, ce qui ne permet pas d'expliquer du tout et de comprendre véritablement ce qui se passe dans la musique électronique lorsqu'un musicien est en train de performer, soit d'improviser, soit de composer en direct.
On va écouter une des références musicales que vous mettez sur la table, Pierre Coupry. Je vous demanderai pourquoi, après qu'on l'ait écouté, il s'agit de Gordon Mumma. Avec une écoute, parce que c'est en public, mais une écoute radiophonique, il est encore plus difficile de savoir quelle est la source live, à savoir une scie musicale et son traitement.
Oui, c'est assez difficile et en même temps, on perçoit immédiatement un geste. En fait, le geste est là, on imagine, on est constamment dans cette musique, enfin, moi je suis constamment dans cette musique lorsque j'écoute cette musique, en train d'essayer d'imaginer le geste du musicien ou des musiciens, combien sont-ils Qu'est-ce qui se passe? On entend un lieu, en effet, qui sonne, des réactions. Est-ce qu'il s'agit du public? Est-ce qu'il s'agit d'un enregistrement qui est en même temps mixé? Qu'est-ce qui se passe? On essaye de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer parce qu'on n'a finalement aucun point de repère dans cette musique. Il n'y a pas véritablement de rythmique spécifique. n'y a pas véritablement de mélodie spécifique et donc on essaye de se raccrocher à quelque chose. Et je trouve que dans cette musique, c'est caractéristique. Vraiment, le geste est vraiment ce qui permet de guider, pour moi, l'écoute, vraiment.
Alors je vous propose d'entendre la suite de mon entretien avec Emmanuel Parent qui va thématiser une autre interaction qui est précisément celle entre le performeur, disons, et le public.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est les premières enquêtes, y compris en France. Hein, je pense au numéro Émotion de la revue Terrain qui date de 2004, dirigée par Olivier Rouef, où il y avait un texte comme ça qui donnait la parole au DJ. Et tout le temps, il parle justement de sentir la réaction du public, ce qui est une pratique de la performance très ancrée. Donc Frédéric Trottier-Pistien, avec son ethnographie du festival Movement à Détroit, revient dessus. Mais ce qui est intéressant dans son texte, c'est que là... on quitte, alors dans le livre, on quitte un peu la toute-puissance aussi du compositeur pour montrer justement qu'il ne maîtrise pas tous les paramètres et que l'œuvre advient ou la performance advient en fonction de multiples interactions. Ce qui est intéressant dans le texte de Frédéric, c'est qu'il prend le point de vue du public qui peut parfois aussi choisir de ne plus interagir avec l'œuvre et de quitter la scène. Et c'est aussi assez intéressant cette perspective où là, cette fois-ci, l'interaction est envisagée du point de vue de la réception.
Alors, vous avez dit ne plus interagir avec l'œuvre. Ça me donne envie de vous poser la question. C'est quoi alors l'œuvre? Parce que précisément, on en sort un peu quand même. On est plus dans le processus, dans...
Tout à fait, vous avez raison. Peut-être que le terme là était mal choisi.
Mais c'est intéressant qu'il subsiste.
Alors, c'est vrai qu'on peut avoir aussi une conception ouverte de la notion d'œuvre. C'est celle de Mark Butler, c'est celle de Georgina Bourne, qui emprunte aussi des outils théoriques à Alfred Gell dans son livre Art as Agency, qui a été traduit en français L'art et ses agents. L'œuvre n'est pas forcément quelque chose d'unifié dans le temps et l'espace. Elle peut être éclatée, elle peut être reprise, elle peut être un processus. Et justement, on milite un peu, à mon avis, dans cet ouvrage pour une conception plus ouverte de la notion d'œuvre, contrairement à ce qui nous a été légué par la tradition 19e, celle de la musique absolue, qui a resserré justement la notion d'œuvre en donnant une forme de toute puissance au compositeur et en essayant de minimiser les autres maillons de la chaîne d'interaction. C'est vrai que il ne s'agit pas de dire que les œuvres du répertoire classique n'interagissent pas, mais elles n'ont pas été pensées dans leur interaction.
Oui, parce que quand on parle de créateur, précisément, on est dans la célébration de cette toute-puissance. Il faut arrêter de parler de créateur.
Simplement, peut-être, de mettre un pluriel. Et puis, surtout, de ne pas chercher à unifier toutes les traditions. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de cet ouvrage. C'est qu'il y a une diversité de répertoires entre des musiques populaires très mainstream. Hein, il est question de David Guetta, par exemple. Des musiques populaires un peu plus avant-gardiste, comme celle de la techno de Détroit. Et puis, petit à petit, on va aller jusqu'à des choses très savantes ou très expérimentales, y compris de la tradition européenne, avec, par exemple, Luigi Nono. Mais ce n'est pas parce qu'on parle d'une multiplicité de traditions qu'elles se valent toutes ou elles se pensent toutes de la même manière. On essaie de montrer que le concept d'interaction s'actualise différemment en fonction des traditions. Et moi, à titre personnel, je milite pour une approche qu'on pourrait presque dire ethnomusicologique, qui essaye de penser les spécificités de chaque tradition. Et en fonction de ces spécificités, eh bien, tel concept d'œuvre va s'actualiser de cette façon. Prenons l'exemple du jazz, que je connais un peu plus particulièrement. Je pense que la notion d'œuvre, elle existe. Mais simplement, il n'y a pas une œuvre, My Favorite Things de John Coltrane. Il y a une quantité de versions qui sont toutes à un niveau ontologique équivalente. Voilà. Il n'y a pas d'unicité de l'œuvre dans la tradition du jazz, mais malgré tout, on est en contact avec des créations qui sont reconnaissables en tant que structure, mais la spécificité du jazz, il faut la comprendre pour en apprécier les qualités.
Et donc ça veut dire aussi d'avoir une pensée des médiations. Il y a toute cette rhétorique qui arrive depuis les travaux d'Antoine Aignon, qui est, eux, porté sur la musique baroque, mais du point de vue justement du geste, du disque, enfin de tout ce qui fait médiation. Sauf que vous maintenez la notion d'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser soit l'un soit l'autre.
Disons que je sais la notion d'œuvre, encore une fois, à titre ouvert, mais c'est peut-être tout simplement la notion d'art ou d'esthétique qui est au centre. Bon, c'est un ouvrage de musicologie. Je pense qu'effectivement, les travaux d'Antoine Aignan sont déterminants, très importants dans la tradition française. Et puis, il est beaucoup discuté aussi par les anglophones. Mais je pense qu'il se sert davantage de la notion de médiation pour penser des objets musicaux que sont les genres, comment sont construits les genres, comment sont construits les instruments, comment sont construits les traditions. Ici, il s'agit peut-être de penser les œuvres elles-mêmes. Effectivement, encore une fois, pas forcément logé dans une partition qui va en fixer la nature une fois pour toutes. L'œuvre peut être décrite comme un assemblage latéral, pour reprendre un concept d'Alfred Gell. Mais précisément, c'est l'objet de la jouissance esthétique, en tout cas.
C'est-à-dire que c'est l'œuvre aussi.
C'est aussi l'œuvre, tout à fait. Oui, oui, je ne pense pas que le terme soit à éviter, simplement peut-être à ouvrir et à montrer qu'il s'actualise différemment selon les traditions.
Pour saluer la participation d'Emmanuel Parent, c'était un extrait de My Favorite Things de John Coltrane. Alors du coup, il faut préciser laquelle de version. C'était la version du 21 octobre 1960 à l'Atlantic Studio de New York, c'est-à-dire sans public. Ça aurait été totalement différent s'il y avait eu un public alors, Baptiste Bacot.
Peut-être, oui, sans doute, les connaissant. Enfin, alors, d'ailleurs, oui. les enregistrements publics de ce morceau sont différents.
Parce qu'on peut s'amuser donc à faire des écoutes comparées oui. De même œuvre entre studio et live. Quand il s'agit de ces musiques qui impliquent les machines, ça met en scène, en relief, là où sont les machines, justement.
Oui, oui, oui. Et puis... C'est vrai qu'on a du mal très souvent à imaginer ce qui se passe véritablement dans le studio quand les gens produisent de la musique électronique. Donc déjà, il y a ce terme de production, producteur autour de cette racine-là qui vient remplacer musicien, auteur, compositeur. Donc qu'est-ce qui se passe au juste dans le studio ? Et ensuite, une fois que la musique est prête en studio, comment est-ce qu'on la restitue en public de façon... intéressante, sans que ce soit ben, juste un simple playback dans lequel finalement le musicien n'aurait plus rien à faire.
Alors on va faire l'expérience, vous nous avez apporté deux extraits de Brain Damage. Peut-être dire d'abord comment vous avez enquêté sur son cas à l'occasion de ce livre La musique et la machine.
Alors, c'était dans le cadre plus général de ma thèse, dont la question de départ est c'est quoi au fond jouer de la musique électronique ? Et donc pour ça, ce qui m'a intéressé en particulier, c'est de regarder le rapport à l'instrument et les applications, les appropriations corporelles et gestuelles des musiciens dans différents contextes, dans les musiques actuelles, dans les musiques expérimentales et dans les musiques savantes. Donc les extraits qu'on va entendre sont issus d'un album de ce musicien stéphanois qui s'appelle Brain Damage. Et donc on va entendre aussi un extrait que j'ai... enregistré avec ma caméra, d'où la qualité plus que passable, mais d'un morceau que je connaissais et que je le voyais jouer devant moi. Et donc le fait de le voir jouer, ça a radicalement changé ma perception eh bien, de son activité musicale en public.
Alors ce morceau s'intitule Letter Home et on va écouter une minute de ce titre dans la version studio pour commencer. The things I've seen and the things I've done. The things I've seen and the things I've done would make you want to hide and run. My news is great knowledge, making all kinds of inventions. C'est un home studio d'ailleurs, il enregistre chez lui ou au moment de faire l'album, il se déplace dans un autre studio?
Alors, il fait plusieurs choses. Il travaille essentiellement chez lui. Là, il est possible que la prise de voix ait été enregistrée ailleurs que chez lui, puisqu'il s'agit du chanteur du collectif anglais Vibronix. Et puis, ce qu'il fait aussi, que j'ai trouvé intéressant dans sa démarche, c'est qu'il prépare des ébauches de morceaux. Et puis, ça fait plusieurs années maintenant qu'il va régulièrement en Jamaïque enregistrer les parties vocales auprès de chanteurs historiques, qui sont des figures importantes du mouvement reggae là-bas. Et il revient avec ses prises sur son disque dur. Et puis, il monte tout ça, a posteriori, dans son studio.
Et donc, voici maintenant la version live.
The things I've seen and the things I've done, they would defy your imagination. The things I've seen and the things I've done would make you want to hide and run.
On a l'impression qu'il se montre utiliser la machine davantage que quand il produit le titre pour l'album, non ?
Oui, tout à fait. Il est très démonstratif physiquement sur scène. Je crois qu'il y a vraiment une volonté d'incarner le fait de jouer la musique et de sculpter presque en ouvrant et en fermant les pistes, en ajoutant des effets à la volée.
Au point de faire variation ?
Oui. Tout à fait, au point de faire variation, d'avoir une présence active, alors que bon, bah, y a d'autres musiciens qui sont peu intéressés par cette posture, voire qui en prennent le contre-pied en étant un peu négligent avec le public, en jouant une performance qui ne serait pas travaillée. Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand on est suffisamment prêt, donc là, ça c'est un extrait d'un enregistrement vidéo, lors d'un soundcheck en vue de la préparation d'un concert qu'il allait donner le soir. Donc, le chanteur est derrière sur scène et lui joue avec sa matière sonore qui est éclatée sur les pistes de sa table de mixage, les pistes de grosses caisses, pistes de batterie, pistes de basse, les synthétiseurs, les voix, etc. Il a aussi un térémine qui lui sert à faire les sirènes emblématiques du dub, qui sont aussi une manière de montrer la production de ce son de sirène gestuelle, puisqu'il faut vraiment mettre la main dans le champ où le térémine va être sensible et produire le son. Donc oui, il y a cette volonté de se montrer en action sur son morceau. Et donc ce que disait Emmanuel tout à l'heure par rapport à l'ontologie des œuvres, bah, c'est peut-être là ce point, c'est que il y a des œuvres de musique électronique qui peuvent correspondre à un morceau dont il existe un certain nombre de variations, tout comme il existe des dizaines de variations des standards de jazz pour raccrocher à Coltrane dont on parlait tout à l'heure.
Ça veut dire que l'activité du musicologue, donc, elle change par rapport à celle d'il y a deux siècles, même si le mot musicologie n'existait pas il y a deux siècles, mais à l'époque, ça consistait à prendre une partition, regarder où était le thème A, le thème B, tout ça. Maintenant, vous, ça consiste à regarder 1, pression memory, geste 2, pression home, puis auxiliaire 2, pression 3, on, et ainsi de suite. Enfin, c'est surtout des pressions, des manipulations de fader, et puis vous faites à chaque fois le recensement de l'effet sur le son, et puis un certain nombre de remarques qui essayent de repérer qu'est-ce qui se mécanise, qu'est-ce qui au contraire se désynchronise par rapport à ce qui se produit.
Tout à fait, oui. Donc là, vous lisez un extrait du tableau qui est dans l'article et dans lequel j'analyse le passage qu'on vient d'écouter. Et donc effectivement, ça consiste à donc non plus à regarder une œuvre figée dans sa forme partition, mais à regarder la façon dont un matériau qui est élaboré en studio et qui peut être l'objet d'un travail d'analyse aussi, mais la façon dont la performance elle est délivrée au public et la façon dont l'incarnation instrumentale, gestuelle, l'activité gestuelle est reliée à ce qui se passe dans les enceintes et à la façon dont le musicien manipule cette matière première sonore qui est l'enregistrement audio figé.
Pierre Couprier, à l'université d'Evry, où vous enseignez, vous montrez Ableton Live aux étudiants, vous leur montrez aussi cette façon de faire musicologie ?
Oui, tout à fait, oui. C'est quelque chose que j'ai un petit peu à cœur d'apporter justement aux étudiants à partir de la L3 en général, en licence 3, essayer de leur montrer que la musicologie, comme vous l'avez dit, c'est pas seulement analyser un thème, une tonalité, etc. Ça va être aussi d'essayer de comprendre comment la musique est fabriquée, d'essayer de comprendre le processus de création, d'essayer d'aborder certaines musiques d'une autre manière, d'analyser le timbre, ou trouver des moyens d'analyser le timbre, de visualiser les timbres, de comparer des interprétations aussi. On fait de la comparaison d'interprétations. Vraiment, la musicologie, c'est toutes ces activités, en fait.
Et concevoir aussi un certain nombre d'autres concepts, c'est-à-dire que le concept d'interaction devient précisément très robuste pour aborder les musiques du XXIe siècle produites avec des machines.
Absolument.
Parce que ça veut dire que ça devient l'un des endroits où on regarde comment musique se fait.
Absolument, tout à fait.
Alors, il y a un autre terme qu'on a employé, qui a circulé dans l'émission, mais qu'on n'a pas véritablement commenté, qui devient tout à fait nodal, c'est le mot d'agentivité. Baptiste Bacco, quand on est en réseau, on ne peut plus tant se penser comme créateur de forme que comme agent du réseau.
Alors, il y a plusieurs façons d'entendre agentivité. Tout à l'heure, on a dit que la créativité avait plutôt tendance à être distribuée dans les contextes de travail numérique, avec le son numérique. Et oui, pour moi aussi, il me semble que l'une des caractéristiques de l'instrumentarium électronique, c'est une mise en réseau calculée, préparée, pensée, pour que le dispositif fonctionne, pour qu'il soit efficace à la fois en studio, pour qu'il soit peut-être sous une autre forme d'ailleurs efficace aussi pour la scène. Et donc il y a effectivement cet agencement, cette création progressive d'une configuration instrumentale plus que d'un seul instrument, ou alors d'un instrument qui serait fait de parties individuelles, mais qui n'ont pas toutes la même valeur. C'est-à-dire que moi, j'ai centré mes travaux sur les interfaces gestuelles parce qu'il me semblait que c'était là que la performance électronique se jouait. Il est pour moi beaucoup moins intéressant, bien que ça puisse être un objet d'étude à part entière, et d'ailleurs c'est le cas, de s'intéresser, par exemple, à la dimension technique de la conversion analogique-numérique qui est faite dans l'interface qui est utilisée par le musicien. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'interface permette à la chaîne d'être intègre et au musicien, sur l'interface gestuelle, d'agir sur le son d'une façon qui lui convienne et qui convienne au public.
Pour terminer, j'ai une question, Pierre Coupry, presque une devinette. C'est quoi la différence entre le plork et le slork ?
Aucune idée.
Alors, le slork, c'est le Stanford Laptop Orchestra, tandis que oui. Le plork, c'est le Princeton d'accord. Laptop Orchestra. Vous feriez la différence à l'oreille entre le Stanford Laptop Orchestra et le Princeton Laptop Orchestra ?
Je ne sais pas, peut-être.
Est-ce que les pratiques, précisément, sont différentes d'une université à l'autre ?
Je pense que même s'ils utilisent les mêmes logiciels, ils utilisent des versions de Pure Data, si je me souviens bien,
oui.
Et des déclinaisons de Pure Data.
Vous êtes un praticien du Laptop Orchestra ?
Oui, mais disons que on fait forcément la différence dans le sens où j'ai un petit peu envie de dire... lorsqu'on joue de la musique électronique, on construit son instrument, pour faire un peu une référence à Iron Man par exemple. Et vraiment dans la musique électronique, ou la musique électroacoustique au sens large, on va dire, c'est vraiment cette capacité de pouvoir construire un instrument à partir d'outils qui sont complètement modulaires. Et Pure Data est un outil qui est totalement modulaire. Et même si on utilise des patchs, puisqu'on parle de patchs, enfin, c'est des sortes de templates déjà tout prêts, on va les alimenter avec des processus différents, on va les alimenter avec des sons différents, on va les alimenter avec des transformations différentes. Donc forcément, l'instrument va sonner différemment. Et lorsqu'on est dans ces orchestres de laptop, typiquement américains, en fait, en effet, ça peut sonner complètement différent alors qu'ils vont utiliser les mêmes instruments. Mais c'est la même chose avec n'importe quel instrument. On parle depuis le début de live.